Je vous l'avais promis il y a quelques mois, c'était de vous emmener au bord de la mer. J'étais dans mon étang à l'époque et je vous avais dit qu'en termes de déconditionnement, on pouvait passer d'un étang à un lac et d'un lac à la mer. Eh bien, chose promise, chose due, je suis au bord de la mer aujourd'hui pour vous parler d'une autre stratégie encore de déconditionnement qui consiste à douter de tout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi qui est la conversation numéro 22 mais qui est surtout la toute première conversation du lundi de 2020, de l'année 2020 dont j'espère qu'elle sera l'année du réenchantement de nos vies et l'année du réenchantement du monde. En tout cas, c'est ce sur quoi je vais consacrer l'essentiel de mes énergies cette année, c'est à la création et au déploiement du mouvement des réenchanteurs et au déploiement d'un certain nombre de cercles de réenchantement qui vous invitera finalement à co-créer le futur que nous voulons voir émerger. Je pense qu'il est temps que nous ne laissions plus aux dirigeants de ce monde et à l'élite de ce monde le soin de décider de quel sera notre futur. Je pense que nous sommes assez grands, nous sommes assez inspirés et nous sommes assez conscients et assez autonomes pour savoir ce dont nous avons besoin pour vivre en paix, pour vivre heureux et pour vivre en harmonie, non seulement les uns avec les autres, mais aussi pour vivre en harmonie avec les animaux, avec la nature, etc. Et donc, c'est véritablement cela que je nous souhaite pour 2020 et les années suivantes, c'est que nous puissions faire émerger finalement le futur auquel nous aspirons, le futur auquel nos âmes aspirent, plutôt que de subir un futur qui nous est imposé par l'élite de ce monde. Bien, alors, si vous vous souvenez, lorsque j'ai commencé cette série de conversations du lundi, j'étais dans mon étang et cet étang, proportionnellement à ma taille, représentait le bocal des poissons rouges, bocal dans lequel les poissons rouges peuvent évoluer toute leur vie sans être conscients qu'ils sont enfermés dans une réalité très très étroite et qu'il serait possible, s'ils en prenaient conscience, s'ils prenaient conscience que les parois du bocal finalement ne sont que des parois de verre et qu'elles ont une existence même si elle est invisible, si elles sont invisibles. Et donc finalement, l'idée c'était d'élargir nos horizons, d'élargir notre conception du monde. C'est ce à quoi je vous avais invité. Je vous avais dit, bon, ben, dans quelques vidéos, je vous emmènerai dans un lac. Et souvenez-vous, je vous avais emmené en voyage en kayak pour arriver jusqu'à un lac qui se trouvait à quelques kilomètres de chez moi. Et à ce niveau-là, je vous avais promis aussi que ce lac, qui était une façon déjà de commencer un déconditionnement, mais je vous l'avais dit aussi, j'avais été très honnête avec vous, il est impossible d'être complètement déconditionné. Par contre, ce qu'il est possible, c'est d'élargir nos horizons. Ce qu'il est possible, c'est de sortir de nos croyances, de sortir de nos certitudes pour voir les horizons de façon beaucoup plus large. Mais je vous avais fait remarquer aussi que le lac avait beau être magnifique, il avait quand même encore un certain nombre de limitations. Et c'est là que je vous avais promis un jour de vous emmener à la mer, qui est encore une sorte de lac beaucoup plus grand, évidemment. Alors la mer, elle aussi, elle est limitée finalement, puisqu'il existe des continents qui vont délimiter les océans. Mais n'empêche que la mer, les océans, ce sont quand même des choses qui nous offrent un déconditionnement encore beaucoup plus large que ne l'était le déconditionnement du lac et ne l'était évidemment le déconditionnement de l'étang. Bien, voilà, donc j'enregistre, donc j'ai profité de mes vacances en Guadeloupe pour enregistrer un certain nombre de vidéos. Donc cette première vidéo va normalement être mise en ligne le 6 janvier 2020, si tout va bien. Et j'ai l'intention d'enregistrer une série de conversations du lundi, même si dès le 12 janvier, je serai rentré chez moi. Mais vous me verrez encore pendant quelques semaines au bord de la mer pour vous inspirer Et pour vous encourager finalement à élargir de plus en plus vos horizons. Alors qu'est-ce que ça veut dire élargir vos horizons? Eh bien c'est là que j'aimerais vous faire découvrir une démarche qui m'a été inspirée au départ par l'étude de René Descartes. Hein. Vous connaissez tous de nom en tout cas le philosophe René Descartes hein, qui a donné lieu d'ailleurs à cet adjectif qui consiste à dire qu'on est cartésien dans la vie. Et finalement, quand j'ai étudié Descartes, au moment où j'ai fait mes études en philosophie à l'université de Namur, je me suis rendu compte que Descartes était beaucoup moins cartésien qu'on ne me l'avait dit et que finalement la pensée subtile, la pensée complexe de Descartes avait été complètement trahie par ses disciples, par les gens qui lui ont succédé et que les scientifiques de ce monde finalement ont oublié les conseils que Descartes avait donnés pour penser la réalité. Et donc c'est dans l'introduction de son discours de la méthode que Descartes nous invite d'une part à douter de tout, à douter systématiquement, et ça je vais y revenir dans quelques instants, et il nous met en garde aussi sur une méthodologie à utiliser lorsqu'on veut étudier un champ de savoir particulier, une réalité particulière. Il nous dit partez de la réalité que vous observez et découper cette réalité dans les plus petites parties possibles. Donc en fait, faites un travail d'analyse. L'analyse, évidemment, sur le plan étymologique, ça vient du grec, et lyse, vous connaissez probablement, hein, comme dans dialyse, comme dans catalyse, eh bien analyse, ça veut dire c'est découper. Hein. Lyse en grec, ça veut dire dissoudre, ça veut dire couper. Bien. Donc, découper la réalité dans les plus petites parties possibles, analysez chacune de ces parties et comprenez et essayez de vérifier la cohérence de chacune des parties, essayez de comprendre le fonctionnement de chacune de ces parties. Et c'est là que les scientifiques se sont arrêtés dans les conseils de Descartes, c'est-à-dire que la plupart des scientifiques se sont arrêtés à la phase d'analyse. C'est pour ça que finalement le monde occidental est devenu un monde très analytique, un monde qui découpe la réalité en tout petit morceau, hein. Regardez comment la médecine a évolué. Nous avons un spécialiste des poumons, mais qui n'est pas le même spécialiste que le cœur, ou le même spécialiste que les intestins, le même spécialiste que le rectum, le même spécialiste de la peau, le même spécialiste du système immunitaire, etc. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons toute une série de spécialistes qui ont décidé d'analyser à fond, de façon très approfondie, le fonctionnement de chacune des parties du corps, mais personne n'a pensé à faire ce que Descartes conseille une fois qu'on a fait tout cela. Il dit à partir de là, vous allez reconstruire la réalité en reprenant toutes ces parties que vous allez analyser, en partant du plus petit jusqu'au plus grand, pour comprendre la dynamique systémique de l'ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui a été complètement oublié par la démarche scientifique, ce qui nous a amené finalement à ce que j'ai appelé depuis plusieurs vidéos le positivisme technoscientifique ou le rationalisme technoscientifique, c'est-à-dire de considérer que la seule chose qui existe finalement sur Terre, ce sont les choses que l'on peut observer, que l'on peut décortiquer avec nos cinq sens et que l'on peut mesurer avec des appareils de mesure matériels, ce qui fait que toutes les dimensions subtiles, toutes les dimensions invisibles, toutes les dimensions dites paranormales, eh bien, n'ont aucune espèce de réalité du point de vue de la science. Bien, alors, ce n'est pas de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce dont je voudrais vous parler, c'est la pratique du doute systématique. Puisqu'en fait, à l'époque, Descartes voulait absolument s'affranchir d'un conditionnement qui était extrêmement lourd depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et ce conditionnement, c'était de considérer que toutes les choses qu'on ne pouvait pas expliquer sur le plan scientifique, dans l'étude de la nature, hein, que ce soit la physique, la chimie, la biologie, la météorologie, les phénomènes naturels, etc. Eh bien, tout ce qu'on ne pouvait pas expliquer, on disait que finalement, ben, c'était Dieu qui l'avait voulu comme ça. Vous voyez, donc pendant un certain temps, pendant beaucoup de siècles finalement, l'humanité s'est retrouvée dans un certain nombre de superstitions où tout ce qu'on ne pouvait pas expliquer, on le mettait sur le compte de Dieu. voyez. Et ça embêtait beaucoup Descartes. Bon, il faut vous rappeler que Descartes, au XVIIe siècle, est né avec le siècle qu'on a appelé le siècle des Lumières. Hein. C'est le début de la Renaissance. Et donc, il y avait tout un mouvement pour justement prendre ses distances par rapport à Dieu et dire, OK, nous faisons le pari, nous les êtres humains, de remettre l'homme au centre du monde. Il faut quand même vous souvenir que en 1633, c'est Galilée qui avait affirmé que la Terre ne se trouvait pas au centre du monde, mais que c'était le Soleil qui se trouvait. Mais n'empêche que cette démarche avait été possible parce que c'était l'homme qui était sorti d'un certain nombre de croyances religieuses pour dire non, la méthode scientifique nous permet de dire que ce qu'on nous raconte depuis des centaines d'années ou des millénaires au niveau des religions, la Terre n'est pas le centre de la création. Bien. Et donc, Descartes s'inscrit dans le même mouvement, si vous voulez, ce mouvement de prise de liberté, d'affranchissement de l'être humain par rapport à Dieu. Donc, on va tuer Dieu temporairement et on va essayer de mener une démarche de compréhension du monde uniquement basée sur nos moyens à nous en tant qu'être humain. Et c'est là que Descartes se dit, mais alors, si je ne peux plus compter sur Dieu pour m'assurer et pour valider les raisonnements que je vais faire dans mon existence et les raisonnements que je vais faire dans mes recherches scientifiques, sur quoi est-ce que je vais pouvoir me fonder qui soit suffisamment indubitable, c'est-à-dire dont on ne puisse pas douter? Et c'est là qu'il a commencé à passer en revue les différentes choses sur lesquelles il pourrait se fonder, comme par exemple les choses que l'on perçoit à travers les sens. Et puis finalement, il s'est rendu compte que nos sens peuvent nous tromper, les rêves peuvent nous tromper aussi, les songes aussi, etc. Donc en fait, finalement, il s'est rendu compte qu'il doutait de tout. Et c'est là qu'il a dit, mais si je doute, je pense, et si je pense, donc je suis. Donc en fait, la vraie phrase de Descartes, et ça vous pouvez aller le vérifier, c'est « dubito ergo cogito ». Cogito ergo sum, c'est-à-dire je doute, donc je pense, et je pense, donc je suis. Et donc c'est le fait de douter qui me donne la preuve irréfutable que j'existe en tant qu'être pensant et en tant qu'être conscient. Et je trouve ça vraiment extraordinaire de reprendre cela à notre compte pour mener cette démarche de déconditionnement. Puisque finalement, c'est quoi le déconditionnement? Alors, pour commencer, je vais vous dire ce que ce n'est pas le déconditionnement. Et je ferai d'abord allusion au cinquième accord Toltec. Alors, parce que vous êtes nombreux à savoir qu'il existe quatre accords Toltec, hein, les quatre accords Toltec qui nous ont été transmis par Don Miguel Ruiz et les quatre accords Toltec qui ont été donc traduits et mis à la disposition du monde francophone par mon ami Olivier Clerc, qui m'a fait l'amitié d'ailleurs de proposer une formation sur la plateforme d'émergence formation, une formation sur la pratique des accords Toltec. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que 10 ans après avoir sorti les 4 premiers accords Toltec, Don Miguel Ruiz a sorti un 5e accord Toltec. Et ce 5e accord Toltec dit ceci, il dit « doutez de tout, mais apprenez à écouter ». Eh bien, c'est exactement cela auquel je vous invite de vous entraîner pour apprendre à vous déconditionner. Finalement, ce 5e accord Toltec est la meilleure façon de travailler et d'œuvrer à notre déconditionnement, c'est d'être sceptique, de douter de tout, mais d'apprendre à écouter, c'est-à-dire de rester ouvert finalement. D'accord ? Bien. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas le déconditionnement ? Qu'est-ce que ce n'est pas douter de tout ? Eh bien, je dirais que d'abord, hein, bon, je pense que c'est assez évident pour la plupart d'entre vous, mais enfin, c'est toujours bien de le dire, ce n'est pas rejeter en bloc et a priori toute idée qui n'entre pas dans vos croyances. Hein, en disant, hein, quoi, on peut guérir du cancer ? Oh non, ça, j'y crois pas. Et non, mais ça c'est de la connerie, ça c'est un message sectaire, etc. Et je rejette ça. Bon, ça, ce n'est pas douter de tout. Ça, c'est de la connerie. Ça, c'est de la fermeture. Ça, c'est de la, je dirais, de la psychorigidité où je préfère rester dans mon erreur jusqu'à la fin de mes jours plutôt que de m'ouvrir à une possibilité qui serait une autre vision plus large, plus intéressante de la réalité. Bon, donc douter de tout, ce n'est pas rejeter en bloc, évidemment, les choses qui nous choquent parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a toujours cru. Vous savez, moi, dans mon existence, il y a plein de choses que j'ai crues jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ce que je croyais, c'était de la connerie et que c'était une vision très étroite et très limitée d'une réalité qui était beaucoup plus large, finalement. Douter de tout, ce n'est pas non plus défendre par principe, a priori de nouveau, le rationalisme matérialiste technoscientifique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre une position systématiquement scientiste qui consiste finalement à refuser de reconnaître la réalité de tout ce qu'on ne peut pas mesurer, hein, ce dont je vous parlais il y a quelques instants. Donc, parce que vous trouverez sur Internet un certain nombre de sites qui s'intitule d'ailleurs « Les sceptiques du Québec », sceptique.com, etc. Enfin bon, il y a plein de sites de sceptiques qui démolissent systématiquement les propositions alternatives qui sont faites au niveau scientifique, au niveau médical, etc. Alors, je ne dis pas que toutes les propositions alternatives qui sont faites sur le plan médical, sur le plan scientifique, sur le plan biologique, etc. sont nécessairement la vérité parce qu'elles sont contraire à la pensée dominante, mais de là à avoir des gens qui passent leur temps à systématiquement démolir toutes les avancées nouvelles et toutes les propositions qui sortent des sentiers battus comme étant systématiquement inintéressantes, ça c'est simplement défendre la pensée unique qui nous est imposé depuis quelques dizaines d'années par les médias dominants, par la science dominante, par les puissants de ce monde. Et donc, je dirais que ce n'est vraiment pas intéressant, et en tout cas, ce n'est vraiment pas ça qui ferait avancer les choses. S'il y avait déjà eu des sceptiques, et il y en a eu d'ailleurs, mais enfin, c'était des sceptiques qui étaient honnêtes à l'époque, mais en 1900, lorsque Max Planck a proposé pour la première fois une solution à quelque chose qui embêtait beaucoup les physiciens de l'époque, qui était la fameuse catastrophe ultraviolette, qui a été reprise par Einstein en 1905, et c'est des travaux de Planck en 1900 et des travaux d'Einstein en 1905 que sont nés finalement les fondements de la physique quantique. S'il y avait eu effectivement des sceptiques qui avaient autant de pouvoir qu'ils n'ont aujourd'hui, avec la censure systématique et sans débat contradictoire, eh bien la physique quantique aurait été tuée dans l'œuf, si vous voulez. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui par rapport à un certain nombre d'avancées sur le plan scientifique et sur le plan médical, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'avancées qui sont tuées dans l'œuf, parce qu'aujourd'hui, ceux qui détiennent le pouvoir ont beaucoup plus de moyens et sont beaucoup plus de mauvaise foi de tuer donc les visions avant-gardistes, si vous voulez, et nouvelles qui sont proposées. Donc, ce n'est pas ça. Donc, douter de tout, c'est se poser plusieurs questions d'abord. C'est se poser trois questions, et ça, ce sont des questions que vous pouvez noter, parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment de, petit à petit, apprendre à vous déconditionner et à élargir de plus en plus vos horizons de pensée, ce qui sera finalement un gage de liberté de plus en plus grande. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça que je vise. Hein. Pourquoi est-ce que je m'emmerde à enregistrer je dis ça pour rire, évidemment, parce que moi, j'adore faire cela. En plus, j'adore être sorti de mon studio pour vous entretenir d'un certain nombre de choses qui me passionnent. Mais bon, voilà, je le dis de façon un peu provocatrice. Pourquoi est-ce que je m'emmerde tous les lundis à vous parler de déconditionnement, qui n'est pas un thème très intéressant a priori? C'est parce que tout simplement, plus vous serez déconditionné, plus vous serez libre. Et plus vous serez libre, plus vous pourrez décider de la vie et de la qualité de vie à laquelle vous aspirez et à laquelle vous avez droit. En fait, c'est pour ça que je travaille. savez, ça fait plus de 30 ans que je suis formateur. Ma première société de formation s'appelait Autonomie et Développement. C'était développer les capacités naturelles de l'être humain pour favoriser son autonomie. Bon, et bien en fait, 31 ans plus tard, c'est encore cela que je fais. C'est vous donner les moyens de votre autonomie. Alors, première question à vous poser, c'est qui parle ? Donc, quand vous entendez un discours, systématiquement, il faut que vous vous posiez la question, mais qui est en train de tenir ce discours ? Est-ce que cette personne, déjà, a une compétence pour me parler de ce dont il me parle ? Ça, c'est la première chose à vous poser comme question. Est-ce qu'il a une expertise ? Est-ce qu'elle a une expertise ? Est-ce qu'elle a une expérience intéressante ? Mais surtout, et ça c'est surtout la question que je vais vérifier systématiquement, quel est l'intérêt ou quels sont les intérêts de cette personne à défendre ce discours-là ? Voyez ? Quand j'entends certains climato-sceptiques, alors je suis moi-même climato-sceptique, je suis même plus que climato-sceptique, je suis intimement persuadé, et ça j'aurai l'occasion dans un des dossiers que je vous proposerai dans la chaîne privée, je suis maintenant convaincu avec toutes les preuves que j'ai réunies que cette légende du changement climatique d'origine humaine à cause du CO2, c'est vraiment quelque chose, c'est une imposture intégrale qui est encore une façon d'une part de détourner notre attention des véritables enjeux qui sont en train de se jouer au niveau de la planète, et c'est aussi une façon de nous taxer de façon indirecte. Vous savez, il y avait déjà les impôts, puis il y a eu la TVA qui était une façon de nous taxer, et maintenant, eh bien, une autre façon de nous taxer, c'est de nous faire croire qu'en payant des taxes carbone, eh bien, nous allons sauver la planète. Mais pendant ce temps-là, les chantres du climat sont en train d'investir massivement dans la bourse du carbone parce qu'ils espèrent faire des milliards de bénéfices grâce à tout l'argent qu'on est en train de mettre dans la bourse du carbone. Mais nous, on va manifester en disant « il faut arrêter les émissions de gaz à effet de serre », ce qui est une aberration et ce qui est une connerie sur le plan scientifique. Bon, je ferme ma parenthèse parce que certains climato-sceptiques sont rentrés dans le discours climato-sceptique par opportunisme pour, par exemple, défendre le déploiement de nouvelles centrales nucléaires. Parce que les centrales nucléaires, effectivement, quand vous voyez ce qui émane des tours de refroidissement, eh bien, ce qui émane des tours de refroidissement, ce n'est pas du CO2, c'est de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau n'est absolument pas polluante. Et donc, les climato-sceptiques qui sont des pro-nucléaires sont en train de surfer sur la vague de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la lutte du réchauffement climatique pour dire, mais vous voyez, le nucléaire, c'est la solution la plus propre puisque le nucléaire n'émet aucun gaz à effet de serre. Ce qui est tout à fait vrai, sauf que les déchets nucléaires, on a pour quelques centaines de millions d'années pour se débarrasser de certains déchets. Alors, à choisir, je préfère encore un petit peu trop de CO2 dans l'atmosphère pour l'instant, plutôt que d'avoir des déchets de plutonium, d'uranium et autres saloperies dont on ne sait pas quoi faire et dont on sait qu'on va être pris avec cela pendant des centaines de millions d'années. D'accord ? Bon. Donc, quel est l'intérêt de la personne ? Quand une compagnie pharmaceutique, quand quelqu'un qui est payé par une compagnie pharmaceutique défend à la télévision les bienfaits des vaccins, eh ben, je suis désolé, mais moi je vais me mettre à douter en disant, est-ce que ce gars-là n'est pas en train de travailler pour la personne qui le paye ? Parce que finalement, s'il commence à dire, vous savez, les vaccins, finalement, on n'est pas si sûr que ça, que c'est si efficace que cela. Et en plus, on n'est pas convaincu du tout que les vaccins ne présentent pas plus de danger que les maladies contre lesquelles ils nous immunisent. S'il disait ça, ben, le gars, je pense que, ou la fille, il ne resterait pas très très longtemps employé ou expert payé par une compagnie pharmaceutique. Donc en fait, ce qui est toujours intéressant, c'est de vous demander, mais quel est l'intérêt de la personne qui est en train de me parler ? Voilà. Et donc, vous pouvez faire ça avec moi aussi, évidemment. Parce que quand je vous parle de déconditionnement, quel est mon intérêt ? Bon, ben, je vais vous le dire. Mon intérêt, c'est que Il y a plusieurs intérêts. Hein. Pour être tout à fait honnête, j'ai un intérêt qui est de répondre aux aspirations de mon âme, parce que cette démarche de déconditionnement, comme je vous l'ai dit, elle a commencé pour moi à l'âge de 18 ans. Et donc ça fait maintenant plus de 40 ans que j'œuvre à mon propre déconditionnement. Et quand je me suis rendu compte que œuvrer à son propre déconditionnement, à mon propre déconditionnement, ça m'a rendu de plus en plus libre, ça m'a rendu de plus en plus serein, ça m'a rendu de plus en plus équilibré au niveau de ma santé physique, ça m'a rendu même plus beau que je ne l'étais il y a 15, 20, 30 ou 40 ans, bah, je me rends compte que finalement, c'était ça que j'avais envie de partager auprès de la communauté. Hein. Souvenez-vous ce que je vous disais lorsque j'étais sur mon kayak. Lorsqu'on découvre quelque chose, lorsqu'on fait son voyage du héros, eh bien, on a envie de revenir vers la communauté qui nous a accueillis au départ et on a envie de partager les trésors, les richesses qu'on a découvertes. Et en même temps, c'est ça qui donne du sens à ma vie. Donc, en fait, mon premier intérêt, c'est de donner du sens à ma vie, c'est de faire en sorte que je me sente en cohérence avec la vie que je mène. C'est-à-dire que non seulement dans ma vie personnelle, dans ma vie individuelle, c'est clair que je pose un certain nombre de gestes qui sont en cohérence avec les valeurs qui sont les miennes depuis plus de 40 ans maintenant, mais en plus, le fait de pouvoir l'enseigner à d'autres fait que j'ai le sentiment d'être utile. Et ça, c'est vraiment mon intérêt. Je l'ai dit d'ailleurs aussi dans une autre vidéo, si un jour le gouvernement devait nous donner une allocation universelle et que nous n'étions plus obligés de travailler pour gagner notre vie, eh bien, c'est clair que je continuerai à faire exactement la même chose que ce que je fais, parce que pour moi, la motivation première a toujours été de donner du sens à ma vie, de réaliser ma mission de vie et de faire une différence positive dans la vie des gens. Maintenant, comme je suis obligé de continuer à gagner ma vie puisque je suis entrepreneur depuis plus de 33 ans, eh bien, c'est clair que si j'entretiens une relation avec vous de façon régulière, c'est aussi pour vous donner l'envie de travailler avec moi un jour, de vous inscrire à un de mes programmes de formation, dont le but d'ailleurs, hein, tous les programmes de formation que j'ai créés jusqu'à présent, ce sont des programmes qui sont là pour vous aider à vous déconditionner, à sortir de vos conditionnements et à être libre, à être en équilibre, à être en harmonie avec vous-même, avec les autres, avec le monde, avec les animaux, avec le cosmos. Voilà. Donc, j'ai également un intérêt, lorsque je vous parle de déconditionnement, c'est de vous donner l'envie de vous inscrire un jour à mes programmes de formation si vous estimez que ce que je vous raconte est suffisamment pertinent. Et si vous estimez que j'ai la compétence, l'expertise, l'expérience pour vous guider dans un pas pareil. Voilà. C'est tout. Donc, je dirais que je n'ai aucune difficulté à vous révéler quels sont mes intérêts à parler, mais moi, je vous invite à le faire vis-à-vis de toute personne qui tient un discours. Donc, toute personne qui vous tient un discours à la télévision, dans une conférence, etc., vous devriez toujours vous demander « mais qui parle ?» Bien. Mais il n'y a pas que ça. Vous pourriez aussi vous demander « mais qui diffuse cette information ?» Parce que parfois, ceux qui parlent ne sont que des relais d'informations. Hein, vous avez des journalistes à la télévision, vous avez des présentateurs de journal télévisé. Bon, ben, eux, ils ne sont pas à l'origine des pensées qu'ils développent. Par contre, ils sont en train de les diffuser sur des canaux d'information. Et donc, c'est là que je m'intéresse toujours aussi, en termes de déconditionnement, à me demander, mais finalement, qui diffuse, qui est la personne, quel est le média, quel est le médium qui est en train de diffuser l'information que je suis en train de recevoir? À qui appartient le média ou le médium qui est en train de me transmettre cette information? Et c'est clair que j'ai eu l'habitude d'avoir beaucoup plus de méfiance vis-à-vis des informations qui sont diffusées par les médias mainstream, c'est-à-dire les médias dominants comme les télévisions publiques, les télévisions privées, etc., que de plus en plus Google, Facebook, YouTube, qui sont de plus en plus censurés par des algorithmes. Ça, j'aurai l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo. Et donc, finalement, quand je sais que les médias sont de plus en plus concentrés dans de moins en moins de mains, et que ces médias appartiennent, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, appartiennent à des holdings financières qui ont des intérêts dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du pharmaceutique, dans le domaine de l'énergétique, dans le domaine du militaire, etc. C'est clair que vous n'entendrez pas souvent des discours qui vont à l'encontre de ces intérêts financiers, de ces intérêts économiques. Si c'est le gouvernement qui me parle, ben là aussi je vais avoir un peu de recul, parce que je sais que le gouvernement, la plupart du temps, est mis en place grâce à l'argent qui est déversé sur les hommes politiques et les femmes politiques qui ont besoin d'argent pour financer leur campagne électorale. Et une fois qu'ils sont en place comme députés, comme sénateurs, comme ministres, comme premiers ministres, etc., eh bien, ils vont devoir renvoyer l'ascenseur à ceux qui ont financé leur campagne électorale. Regardez Macron. Macron, il a été financé par un certain nombre de banques privées, dont la banque Rothschild, dont il est issu, et il a été financé par un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques. Et j'étais certain, au moment de son élection, qu'une des premières choses que Macron allait faire, c'était voter des nouvelles lois pour favoriser encore plus les banques privées et les ultra-riches, et d'autre part, qu'il allait favoriser les compagnies pharmaceutiques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a, dans les premiers mois de son mandat, imposé les 11 vaccins obligatoires, qui est une complète aberration sur le plan scientifique. Ça ne repose sur rien sur le plan statistique de dire que les 11 vaccinations qu'on va imposer aux nourrissons, ce qui représente plus d'une quarantaine d'injections entre l'âge de 0 et 3 ans, eh bien, ou l'âge de 0 et 6 ans, je ne sais plus exactement, mais bon, en tout cas, c'est une quarantaine d'injections, ce qui est une agression absolument intolérable pour le système immunitaire qui est encore immature chez l'enfant. Donc, c'est clair que quand le gouvernement va me prétendre quelque chose, je vais avoir un petit moment de recul, vous voyez, c'est comme quand le gouvernement français nous a fait croire que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière germano-française ou franco-germanique. C'est comme quand le gouvernement nous dit que l'usine de Rouen n'a dégagé aucun produit toxique, mais que les premiers prélèvements sanguins ne seront faits qu'au mois de mars 2020, alors que la catastrophe a eu lieu au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons. Quand un gouvernement me dit qu'on exclut d'office l'origine criminelle de l'incendie de Notre-Dame de Paris, j'ai tendance à remettre cela en doute alors que l'enquête n'a même pas encore été ouverte. Vous voyez ? Donc, en fait, mon amie Guylaine Langteau, elle est toujours médecin, mais elle est rayée de l'ordre des médecins depuis très longtemps. Guylaine Langteau, qui est l'auteur d'un livre tout à fait passionnant qui s'appelle La mafia médicale. Et quand Guylaine Langteau donnait une conférence avec moi en septembre 2009, au moment où nous essayions de prévenir la population des dangers de la vaccination H1N1, particulièrement. Guylaine avait dit cette phrase qui avait fait rire toute la salle. Nous avions réuni 1200 personnes au Palais des Congrès de Montréal à ce moment-là. Et elle avait dit « Quand le gouvernement te dit d'aller à droite, va à gauche, tu es sûr de ne jamais te tromper. » Et j'avais trouvé ça extraordinairement savoureux comme expression. En même temps, bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que de temps en temps, le gouvernement nous dit des choses vraies, mais la plupart du temps, il y a des intérêts qui sont en jeu, qui font qu'ils ne vont pas nous raconter la vérité telle qu'elle est. Par contre, quand je suis abonné, ou quand je suis des magazines, que ce soit sur Internet ou que ce soit des magazines papier, qui sont financés uniquement par les abonnements de ces lecteurs, qui n'ont même pas de publicité. Hein, je pense au magazine Néo Santé en Belgique, qui a fait le choix très courageux, et à ce niveau-là, je salue mon ami Yves Razir, qui a eu ce courage extraordinaire de défendre pratiquement seul les travaux du docteur Hammer, alors qu'il y avait une omerta et une menace vis-à-vis de toute personne qui défendait les travaux du docteur Hammer, et il a décidé de créer un magazine qui s'appelle Néo Santé, et il a fait le choix très conscient de ne pas accueillir des annonceurs publicitaires pour avoir une liberté totale de propos. Puisque Yves avait eu un autre magazine auparavant qui était Bioinfo. Et Bioinfo avait des annonceurs et il suffisait que dans Bioinfo, ils sortent un article qui remettait un peu en question la pertinence de consommer des produits laitiers ou du lait tout simplement, pour que tous les annonceurs qui faisaient de la publicité pour le yaourt bio ou le lait bio, etc., retirent leur publicité des numéros suivants. Donc, Yves voulait absolument une liberté totale et absolue, et c'est pour ça que NeoSanté ne vit que grâce aux abonnements des lecteurs. Même chose pour le magazine Nexus, même chose pour un certain nombre de magazines qui ont décidé de ne mettre aucune publicité pour justement garantir à ses lecteurs l'absence de conflit d'intérêts. Je pense aussi à des magazines sur Internet, hein, entre autres un magazine que je suis beaucoup, c'est Thinkerview, un autre magazine qui s'appelle Le Média, qui est une série de journalistes indépendants qui ne vit que grâce aux abonnements volontaires des internautes. Ma propre chaîne privée, au départ, je la voulais complètement gratuite et en fait, je me rendais compte que ça me mettait en déséquilibre. Donc maintenant, cette chaîne fait appel à des abonnements solidaires volontaires. Donc en fait, tout le monde peut encore aller sur ma chaîne gratuitement. Mais évidemment, je fais appel maintenant à un soutien financier pour pouvoir continuer mes activités. Voilà, donc, et il y a toute une série d'autres magazines. J'aurai l'occasion de consacrer un dossier dans ma chaîne privée, justement, sur un certain nombre de médias auxquels on peut se fier. Donc, ça, c'est la deuxième question à vous poser au niveau du déconditionnement, c'est qui diffuse l'information. La troisième et dernière question à vous poser, c'est qui paye. Parce que finalement, c'est ça, hein. Il y a un adage qui dit depuis longtemps, quand on fait des enquêtes criminelles ou des enquêtes de journalisme d'investigation, c'est « follow the money », suivez l'argent finalement, suivez d'où vient l'argent. Hein? Et donc c'est déjà ce que je vous ai dit quand je vous ai dit « qui parle ?» Ben, qui paye la personne qui parle finalement ? Quand je vous dis « qui diffuse ?» Ben, finalement, c'est qui paye celui qui diffuse l'information ? Et donc finalement, qui finance ? Donc, c'est là que vous allez vous rendre compte qu'un certain nombre de magazines sont financés par la publicité et donc sont obligés d'être quand même suffisamment respectueux pour les valeurs des annonceurs qui vont diffuser les choses. Je vous ai dit, regardez qui sont les possesseurs des médias qui nous abreuvent d'informations. À partir de là, vous allez comprendre qu'il est impossible que des médias qui sont possédés par des holdings financières qui ont des intérêts dans l'agroalimentaire, l'énergétique, etc., etc., que ces gens acceptent qu'on diffuse des informations qui vont mettre en question, qui vont semer le doute dans l'esprit des gens qui s'abreuvent de ces informations conditionnantes je dirais finalement restreignantes. Voilà. Donc, suivez l'argent. Vous savez, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça fait déjà pratiquement 40 minutes que je vous parle, mais je pourrais vous parler de la manière dont la fraude scientifique est générée par une manne d'argent que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je vous parlerai aussi de la manière dont les compagnies pharmaceutiques dépensent leur argent. Et vous ne serez peut-être pas étonné de savoir que les compagnies pharmaceutiques, finalement, dépensent davantage d'argent en lobbying et en publicité et en pot de vin qu'elles ne dépensent d'argent en recherche fondamentale pour développer des nouveaux médicaments et pour surtout vérifier que ces médicaments ne provoquent pas des effets secondaires absolument catastrophique pour la population. Voilà. Donc, je pense que vous avez déjà de quoi vous amuser cette semaine en vous posant donc ces trois questions du doute systématique proposées par Descartes, c'est-à-dire qui parle, qui diffuse et qui finance. Alors, amusez-vous bien et je vous retrouve la semaine prochaine au bord de la mer encore pour d'autres conversations du lundi à propos du déconditionnement.